Nous sommes le mercredi 3 mai 2023 et ils sont 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club La Presse sur les antennes de Radio Canal FM à Lomé ici ou encore sur Radio Courtoisie à Dapaon, Radio Sama FM à Baga Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokone, Radio La Paix, la Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Lumière à Anero, mais également toutes les applications et autres canaux numériques sur lesquels vous êtes en communion avec nous de par le monde. Nous saluons, remercions, félicitons les techniciens qui nous accompagnent au jour le jour. Aujourd'hui, c'est le duo Victor Gbekoku, Michel Tominga et Jérôme Dakucha. Comment ne pas dire merci aux confrères qui se dévouent au jour le jour pour nous tenir compagnie au Club de la Presse. Estelle Koudjonou de Gazelle Info, bonjour.
Bonjour Sassou, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux techniciens, je n'oublie pas les auditeurs et auditrices de Canal FM.
En face de Estelle, c'est Bouraïma Tchabore qui nous porte le messager, n'est-ce pas, bonjour.
Oui, bonjour Sassou, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, et sans oublier celles qui nous écoutent évidemment.
Naturellement, surtout toi.
Moi-même.
Oui, voilà. Voilà. Et à sa gauche, c'est Kokou Sylvestre Béni du journal La Manchette, bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous les fidèles branchés.
Et comme nous sommes mercredi, naturellement, nous parlons santé hein, par le journal Santé Éducation, représenté par son PDG en personne, c'est Anam. Bonjour.
Bonjour, ça c'est bonjour à nos fidèles auditeurs et puis auditrices. Comme vous le dites si bien, Santé Éducation vous apporte chaque mercredi la santé.
La santé par oui. L'éducation. Tout à lui, fait. C'est. Pourquoi j'oublie son nom? Basile Mignaké, de son prénom authentiquement Kabyé, Anam. Anam qui veut dire quoi, Basile?
Anam qui veut dire que Dieu prend soin de moi, quoi.
Dieu prend soin de moi, Anam. Surtout quand on le dit bien en Kabyé, c'est Anam.
Oui, Anam. Ouais.
Ah, moi, Anam. Je dis Anam, alors
ouais.
Que c'est Anam.
Oui, Anam, Anam.
Merci Basile, beaucoup. Basile Anam ouais, ouais. Mignaké.
Il a été mon professeur au lycée. Hein.
Ah bon?
Si vous le savez.
Basile qui veut dire le grand aussi. Hein.
Oui. C'est dans ça le miracle du Club La Presse. Oh, hein. Oui. On peut mettre face à face un ancien élève et son professeur oui. Qui parle à égalité.
Ah, oui.
Quand le professeur dit quelque chose que l'élève n'est pas d'accord, il lui rentre dedans.
Oui. C'est
la liberté d'expression. La liberté d'expression que nous célébrons aujourd'hui. Ça fait 30 ans que au niveau de la planète Terre, le 3 mai est convenu comme journée internationale ou journée mondiale de la liberté de la presse. Nous allons en parler aujourd'hui. Mais avant le débat, la pensée du jour. Et nous sommes allés visiter Thomas Jefferson. Je crois que c'est le deuxième président des États-Unis d'Amérique qui a écrit que la presse est le quatrième pouvoir. Si elle est libre, c'est le peuple qui est libre. C'est Thomas Jefferson qui l'a écrit que la presse est le quatrième pouvoir. Et si la presse est libre, c'est le peuple tout entier qui est libre. Eh bien, nous verrons tout au long de l'émission si la presse togolaise est libre et par ricochet, si le peuple togolais est libre. Mais avant cela, la santé par l'éducation, comme le journal le dit si bien. Et l'inauguration a été faite depuis le 26 avril dernier, mais le sujet inonde encore les journaux aujourd'hui. Il s'agit de Dr Lafier. Et nous sommes permis de sous-titrer le sujet « Au-delà de la polémique, regardons l'hôpital ». Quand le journal Nouvelle Opinion écrit par exemple « Dr Lafier, une réalité au Togo » et que la Dépêche écrit à la page 6 « Inauguration de l'hôpital Dr Lafier, un rêve enfin concrétisé », le messager aussi consacre un article, Bouraïma.
Évidemment, j'ai consacré, évidemment, j'ai consacré un article là-dessus par rapport à cette inauguration et je crois que c'est toujours une bonne chose. Lorsque nous avons des joyaux qui puissent quand même nous permettre de nous réjouir, qui puissent permettre quand même à la population d'en bénéficier, je pense que c'est une bonne chose. Et Dr Lafier, aujourd'hui, Nous l'avons rêvé, aujourd'hui c'est un fait. Et vous n'êtes pas sans savoir ça, parce que nous sommes de ceux-là qui avons toujours critiqué le fait qu'on n'a pas des joyaux de référence, surtout un hôpital de référence. Et on a critiqué les dirigeants, les gouvernants. Aujourd'hui, je pense que nos critiques ont eu un début. Et d'entendement, ça dit que ces critiques ont été entendues. On peut dire merci à cette belle initiative. Que d'autres initiatives viennent également pour quand même soutenir ce qui est en train d'être fait. Parce que c'est une bonne chose. Avoir un hôpital de référence, moi je pense que c'est une bonne chose. On va éviter que désormais on soit obligé d'amener des gens à l'extérieur, de transporter les gens à l'extérieur. Et puis ça, je pense qu'on va également en discuter. L'essentiel n'est pas également d'avoir un bon joyau, mais il faut quand même l'équiper. Avoir l'équipement en conséquence pour pouvoir faire le travail qu'il faut.
Et surtout la maintenance des équipements et de tous les équipements, de tout le personnel également. Le messager qui nous écrit que l'hôpital de référence, Dr Lafier, officiellement opérationnel. Mais comme je l'ai dit, comme cet hôpital charrie tellement de littérature, tellement de passion, tellement de polémiques, mais je nous prie de ne regarder que le côté hôpital. Qu'est-ce qui vient d'être construit? Quelles sont les prestations que Dr Lafier va nous offrir? C'est ce que fait le Santé Éducation qui nous rappelle aussi que le chef de l'État a inauguré l'hôpital de référence Dr Lafier. Et Anam, ton journal écrit que le Togo dispose désormais d'un hôpital de référence de niveau 4.
Oui, Innocent. Je pense que nous sommes des témoins de ce qui se passe dans nos formations sanitaires publiques comme aussi privées. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous disons que c'est un service après-vente aujourd'hui, comme vous le dites si bien. Maintenant, comment est-ce que sera fait, la gestion va se faire? Mm-hmm. Comment est-ce que... Qui va profiter de ça aujourd'hui? Est-ce que... Et il y aura un lien entre les formations sanitaires les plus UP, je parle de UP, CHU Campus, CHU Sylvanus Olympio et Dr Alafia. Mm-hmm. Aujourd'hui, qui peut se lever pour aller dans cette formation sanitaire? Mm-hmm. Est-ce que ce sont des pathologies vulgaires, banales, qu'on peut transporter là? Quel sera vraiment le travail qui se fait? D'où cette nécessité de communiquer autour de ce joyau-là. Mm-hmm. Comme Bouraïma vient de le dire, et depuis 2010, on a senti cette nécessité d'avoir une haute formation sanitaire pour supplier, pour désengorger ces formations déjà qui existaient et qui n'avaient pas la pointe de la technologie. Mm-hmm. Aujourd'hui, au vu de tout ça-là, comme vous le dites si bien, on doit regarder que l'hôpital, il est bien vrai que le chef de l'État était présent à la première pause, à la peau de la pierre, à l'inauguration. Mm-hmm. Cela démontre qu'il a une préoccupation particulière à ce que ce joyau-là puisse jouer pleinement son rôle. Mm-hmm. On ne peut plus aujourd'hui évacuer quelqu'un vers le CIRE parce que c'est niveau 4. C'est niveau 4, c'est que la technologie y est, la pointe y est. Maintenant, comment est-ce que nous allons gérer tout ça là? Nous sommes à 8 millions de population. Mm-hmm. Ça tombe bien que le recensement, tout récemment, vient de dire qu'il y a 2 millions de plus. Et chaque année, il y a 2,3% d'augmentation de la population. Donc, il y a aujourd'hui cette nécessité vraiment d'avoir vraiment cette technologie, cet hôpital.
Quand Santé Éducation nous rappelle que l'hôpital Dr Lafier va permettre d'améliorer davantage l'offre de soins hospitaliers par des services de haute qualité, de relever le niveau du plateau technique et d'induire une amélioration rapide des indicateurs de santé au Togo. L'une des premières conséquences déjà heureuses, c'est que le Togo n'aura plus besoin d'évacuer certaines personnalités à l'extérieur pour cause de maladies chroniques. Voilà, Coco Sylvestre, voilà le côté hôpital les voies plus autorisées qualifie de hôpital de référence numéro 4 avec des équipements de pointe, avec des prestations de qualité. C'est ce que nous faisons l'effort de regarder aujourd'hui, alors que les autres polémiques auront toujours le temps de surgir.
Oui, je crois que oui, il y aura toujours des polémiques, hein, puisque lorsque, si vous regardez aujourd'hui Sival et le centre Sivales Olympio, hein, le CHU Tocoin fut également un joyau avant donc de tomber aujourd'hui, hein, dans ce que nous connaissons, et d'aucuns donc n'hésitent même pas à dire que c'est un véritable mouroir. Donc ce sont quand même ces appréhensions qui créent aussi la polémique, parce que si demain on nous dit que le scanner donc de Dotalafia tombe en panne, est-ce qu'on aura quand même cette diligence là, est-ce qu'on va pouvoir quand même réparer cela ou changer avec célérité? Donc c'est ces appréhensions là qui font que certains encore un certain nombre donc de griefs contre le secteur santé. Maintenant, l'essentiel c'est que nous avons le joyau, donc vivement qu'on puisse en prendre soin, et donc que cela puisse également aider, hein, l'État à ne pas aussi à évacuer un certain nombre donc de personnel administratif, ne serait-ce que pour cause de migraines. Au moins, nous savons que Dr Lafia peut au moins soigner les migraines ici. Oui. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse encore apprêter un avion médicalisé et tout ça, et déplacer les gens aux frais du contribuable togolais. Au moins, cela peut contribuer à des pathologies bénignes, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, espérons.
Espérons bien. Il y a quelques jours, une vidéo avait circulé de façon virale sur nos réseaux quand on a vu le président Alassane Dramane Ouattara se rendre en consultation dans un hôpital de son pays à Abidjan. Il y a encore quelques temps, c'est notre voisin d'à côté de l'Est, le président Athanase Patrice Talon, qui avait dit que dorénavant, le Bénin n'évacuerait plus ses personnalités pour cause de maladie. Maintenant que nous avons l'hôpital Dr Lafia, dont les voies plus autorisées vantent les mérites, est-ce que quand nos hautes personnalités, publiques, parapubliques ou bien les privés, quand ils seront malades, est-ce qu'ils vont s'économiser à eux-mêmes et économiser de l'argent au Togo en se rendant à Dr Lafia, ou bien est-ce qu'il faudra encore apprêter un avion pour le Maroc, pour la Turquie, pour les Émirats Arabes Unis, pour ne pas dire plus haut. Voilà, comme quelqu'un disait aujourd'hui, nous déposons nos yeux, nos oreilles et nous attendons.
Oui, le second nom de Dieu, c'est le temps.
N'est-ce pas? Voilà. Et tu as la foi?
La foi.
Parce que tu es assis à côté de...
De quelqu'un qui a aussi la foi.
Du seul innocent.
Voilà.
Merci, Anam. Nous continuons avec l'autre article de santé éducation que nous avons retenu pour les débats. Il s'agit de ce qu'il peut nous arriver de sentir, notamment des sensations de fourmillement dans nos jambes, ou encore des pieds froids, ou encore des sensations de jambes lourdes, ou encore des douleurs aux articulations et des crampes musculaires. Tout cela peut dénoter des signes de mauvaise circulation sanguine, n'est-ce pas, Anam?
Oui. Innocent, vous savez, Dieu a construit l'organisme de telle enceinte que ce sont les douleurs qui nous alertent. Mm-hmm. S'il n'y a pas la douleur, je pense que personne n'aura pas l'idée de se déplacer pour aller se traiter à quelque part ou pour une prise en charge quelconque. Donc, lorsque nous avons certaines douleurs, que ce soit dans nos membres supérieurs ou bien inférieurs ou bien partout, une partie de l'organisme fait signe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et bien évidemment, lorsque il y a circulation, il y a une mauvaise circulation dans l'organisme. C'est-à-dire que c'est un circuit fermé. Nous avons vu au CM1 ou bien au CM2 comment est-ce que nous dessinons
l'appareil circulatoire.
Voilà. Vous allez voir que c'est un circuit fermé. Oui. Il y a le rouge ici, il y a le bleu ici. Donc, c'est que c'est un système d'irrigation de l'organisme, et que lorsque le sang n'irrigue pas une partie de l'organisme, c'est qu'il y a des défaillances et puis on sent des douleurs, que ça soit même un simple vertige. Le vertige le matin, tu te rends que vraiment ça ne tourne pas bien, c'est une alerte. Et aussi vous avez des fouillements des jambes froides ou bien des pieds froids, c'est qu'il y a un signe que l'organisme n'est pas irrigué. Et donc, c'est un point sensible pour nous. Tous ceux qui nous écoutent doivent savoir que lorsqu'il y a problème d'irrigation, hein, c'est un système automatique 24 sur 24. Et j'ai dit que si on prend le foie dans ce système-là, le foie filtre le sang par minute 1,3 à 1,5. Donc, à chaque minute, c'est le rôle du foie. Mm-hmm. C'est de se débarrasser des toxines, de prendre les éléments essentiels, tout ça là. Donc, c'est un travail permanent. Donc, c'est d'alerter à tous nos lecteurs, à tous ceux qui nous écoutent, que l'irrigation sanguine doit être entretenue pour notre propre santé.
Et nous avons
dans ce journal des recettes maison. Mais cela ne veut pas dire que après plusieurs tentatives, s'il n'y a pas de résultat, il faut aller faire une consultation, aller voir un médecin pour lui exprimer ce qui vous arrive, bien voilà, évidemment.
Merci. Donc l'article s'accompagne de ces recettes, mais comme Basile le dit, ce sont des recettes de journal, ce ne sont pas des prescriptions médicales après consultation.
Oui, tout à fait.
Quand nous avons de ces sensations et que ça dure, mieux vaut aller voir un médecin pour avoir l'avis, son avis et les traitements adéquats. Et nous allons terminer avec cet article à la page 3. Les pires habitudes alimentaires à éviter pour une meilleure santé. Nous ne le dirons jamais assez. En paraphrasant un grand savant, notre premier médicament, c'est notre alimentation. Basile.
Oui, Innocent. Nous avons réuni au moins 8 points ici qu'on qualifie de pires habitudes alimentaires à éviter pour une meilleure santé. Ce sont des choses pratiques, simples, qui ne coûtent évidemment rien. Mais on prend seulement 3 ici. On prend le troisième qui est de grignoter avant de se coucher. Lorsque on veut se coucher là, on veut aller dormir, se reposer, on doit se soustraire de cet exercice là. On doit éviter le grignotage parce que ça ne favorise pas l'organisme à se reposer et à se retrousser. Donc vous savez comme moi, Innocent, que c'est la nuit que l'organisme se régénère. Donc, si à ce moment-là, vous prenez des choses, chocolat ici, cacahuète par là, croissant ici, avant d'aller au lit, je pense que vous mettez l'organisme
en danger, sérieusement.
On prend aussi un autre point, ne pas mâcher les aliments. Ici, les spécialistes nous disent que lorsque vous prenez un boule d'aliments comme le riz, vous devez faire des exercices là 40 fois. Ça veut broyer 40 fois. Marcher comme ça 40 fois jusqu'à ce que la nourriture ou bien l'aliment là soit molle et l'organisme est content d'accueillir vraiment cette ration là qui arrive et ça va lui permettre parce qu'il y a de salive.
Bien mâcher jusqu'à ce que l'aliment devienne de la bouillie dans la bouche avant que nous l'avalions.
Qu'est-ce qu'on fait du fou dans ce cas?
C'est que doucement. Parce que les nutritionnistes nous disent que il faut, lorsqu'on veut manger, on se met à table, on a tout le temps pour le faire. On va doucement, on
mange. Faut éteindre la télé,
voilà. Tout. Et je prends un dernier point, qui est de boire de l'eau. Innocent, ça ne coûte rien de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. C'est un remède.
On parle de l'eau. On ne parle pas d'autres liquides.
Oui.
C'est de l'eau.
L'eau simple. Okay.
La bière, c'est l'eau.
Non, la bière n'est pas l'eau.
Il faut arrêter de mélanger l'esprit des gens. Du jus
n'est pas l'eau. On dit l'eau. Et que on qualifie même toutes les religions sur cette terre. La science qualifie l'eau comme quoi? L'aliment la plus indispensable. Mmh. C'est la vie. Mais si on refuse à notre organisme de prendre et de servir nos cellules. Et vous savez ce qui arrive.
Merci. Ces pires habitudes alimentaires à éviter très rapidement. Il faut éviter de se goinfrer. Éviter de grignoter avant d'aller se coucher. Éviter de manger trop vite. Ce n'est pas une compétition. Nous ne sommes pas des ruminants. Ibrahima. Évitez d'ajouter du sel à l'aliment que Mandama a déjà préparé.
À la table.
Évitez de manger devant un écran de télévision bien travaillant. Quand on veut manger, on se concentre sur la nourriture.
Ah, voilà, Estelle.
Évitez de... Enfin, il faut bien mâcher les aliments. Oui. Chrono en main.
Oui. Surtout ça.
Et également, il faut boire beaucoup d'eau. De l'eau H2O.
Oui.
C'est pas dire que... il n'y a que 6% de bière dans l'eau. Non, non, c'est dans l'eau qu'on dit. Et puis également, éviter de boire et de manger trop sucré. Ces recettes à trouver dans cette
éducation
et bien d'autres également.
Je vais apporter de l'eau au moulin de santé éducation par rapport à la consommation de l'eau.
Oui.
Ça peut paraître un peu anodin et bizarre, mais il y a un cousin qui a fait une expérience il n'y a pas longtemps. Il était un peu souffrant. Il faut dire qu'il est grand consommateur de la bière et de la sucrerie. Il en consomme tellement que... entre-temps, il lui a été demandé d'arrêter la consommation de la bière et de la sucrerie. Puisque les médicaments qu'on lui administrait, ça ne marchait pas rien. Et d'adopter uniquement que de la consommation de l'eau.
Mm-hmm.
Il a adopté l'eau comme boisson. Et c'est... Mais comme par enchantement, il a recouvré sa santé et... rajeuni, pimpant en fait. Donc, la corrélation n'est pas directement établie, mais il a fallu qu'il élague en fait cette consommation de son régime pour qu'on se rende compte en fait que ça a marché. Donc,
nous serons nombreux c'est vraiment à aller important. À l'école de ton cousin.
Pour faire le point. En plus, il y a l'économie, justement, de l'économie également.
Merci beaucoup. C'est le 3 mai. C'est notre journée mondiale ou international de la liberté de la presse. Le thème choisi cette année intitulé « Façonner un avenir des droits, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». Et à ce sujet, depuis ce matin, nous avons le tout dernier classement en date de l'ONG Reporters sans frontières. Et ce classement dit que le Togo figure au 70e rang, alors qu'il y a un an, nous étions 100e. Pour ne pas dire que nous avons fait un bond de 30 places en un an. Et pour la journée de ce 3 mai, c'est la manchette qui écrit « La presse dans la tourmente ». Mais pour marquer la date, un panel s'ouvre aujourd'hui sur les textes de loi. Estelle, c'est l'Observatoire togolais des médias, notre instance d'autorégulation qui nous convie à une réflexion. Nous allons écouter plutôt le menu de la journée à laquelle nous convie incessamment l'OTM. Estelle.
Oui, comme tu as déjà planté le décor cet après-midi, pardon. Un chat veut rentrer dans ma gorge, pardon. Cet après-midi, à partir de 14h, à l'hôtel Concorde, aura lieu la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse pour les professionnels des médias. Comme vous le savez, depuis quelques années déjà, l'Observatoire togolais des médias marque cette célébration par la présentation du traditionnel de rapport sur l'état de la presse au Togo. Mais cette année, il y a des innovations que l'OTM va apporter et c'est ce que tu viens d'annoncer, c'est l'organisation d'un panel de haut niveau sur le thème « Les tests de loi au Togo, est-ce une menace pour la liberté d'expression et des médias ?» avec des d'éminentes personnalités que vous découvrirez. Je garde quand même le suspense sur le panel tout à l'heure pour débattre de ce thème-là, histoire de faire l'état des lieux des tests de loi qui régissent aujourd'hui la profession au Togo. Et puis, comment est-ce qu'on peut apprécier cette liberté d'expression aujourd'hui pour les professionnels des médias que nous sommes. Voilà un peu de façon ramassée le programme qui nous attend dans le cadre de la célébration du 3 mai.
Voilà pour la liberté de la presse, la liberté d'expression. Nous avons la constitution de la 4e République. Nous avons la toute dernière version du code de la presse de la communication, version 2020. Nous avons également la dernière loi organique en date de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Nous avons également le code d'éthique et de déontologie de l'OTM. Alors, c'est sur cet ensemble de lois que nous allons réfléchir cet après-midi. Est-ce que toutes ces lois constitueraient des formes de menaces pour la liberté de presse au Togo? On ne va pas trop en parler. Le panel va s'animer. C'est notre journée. Je crois que on va pouvoir se libérer des invitations par-ci, par-là, des reportages, et que nous serons nombreux à envahir l'hôtel Concorde pour écouter le panel que nous allons enrichir de nos observations, de nos vécus quotidiens.
Ça, vous avez fait, oui. Vous avez prononcé une citation tout à l'heure en début. Je pense que vous parlez du deuxième vice-président
Thomas Jefferson.
Il avait également dit quelque chose d'intéressant, oui. Et je voudrais qu'on appuie là-dessus pour montrer l'importance de la presse au sein de la société. Il a dit, s'il lui était donné de choisir entre une presse sans gouvernement et un gouvernement sans presse, il choisirait une presse sans gouvernement.
Oui.
Cela démontre également de l'importance des médias, de l'importance de la presse au sein des sociétés. Donc, je voudrais revenir là-dessus pour qu'on puisse appuyer et inviter les uns les autres cet après-midi à ce qu'on aille pour pouvoir suivre et en débattre pour voir quel est ce que nous pouvons penser, mais qu'est-ce que nous pouvons penser pour notre devenir, parce que nous sommes tous des médias.
Merci. Donc, le panel, c'est cet après-midi, mais auparavant, la traditionnelle cérémonie de l'état de la presse au Togo sera dressée par l'OTM avec une version symboliquement remise au gouvernement à travers le ministre de la Communication, et puis s'en suivra le débat. Mais la presse au Togo, la manchette Sylvestre, la manchette trouve que la presse se trouve dans une forme de sous une forme de tourmente dans notre pays.
Oui, oui, parce que lorsque vous voyez les derniers événements, je crois que nous avons assez d'éléments pour soutenir cela. Ce matin, je ne sais pas comment est-ce que nos confrères et Ferdinand et Isidore se sont réveillés ce matin. Et qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils se portent? Ils sont loin donc de leur famille et la famille qui est ici. Comment elle se porte? Vous voyez, ce sont quand même des questions qui taraudent l'esprit parce qu'ils ont porté un jugement de valeur la manière donc de faire d'un certain nombre de Togolais, et ils ont été condamnés à 3 ans de prison ferme, des journalistes
en première instance,
et donc ils sont obligés de se retrouver hors de l'espace public. Ils seraient là qu'aujourd'hui à l'instant T où nous parlons, ils nous écouteraient depuis la prison civile de Lomo, je ne sais pas de quelle prison. Vous voyez, lorsque vous voyez ces éléments, ça véritablement ne peut pas nous réjouir. Oui, certes, lorsque vous voyez le dernier classement, le classement 2023.
Oui, avant de continuer, oui. Sur le cas de Ferdinand et de Zido, il faut rappeler, comme tu le disais, c'est le 15 mars dernier, oui. Qu'en première instance, les deux confrères avaient été condamnés à 3 ans de prison ferme,
oui.
Pour outrage envers des représentants de l'autorité publique, diffusion de fausses nouvelles. Et comme ils n'étaient pas là, un mandat d'arrêt a été pris contre eux, mais Dieu merci, leur avocat, que nous saluons beaucoup, Maître Longpadé, a interjeté appel. Et nous apprenons que la cour d'appel va siéger le 11 mai prochain, donc le jeudi de la semaine prochaine, sur le cas de Ferdinand et Isidore. On en saura. Mais toujours pour pesanteur sur la presse, notre confrère Franco Napokoura de Tampa Express, il s'est encore présenté au tribunal la semaine dernière. L'affaire est renvoyée pour les jours suivants. Et nous apprenons que hier même, deux confrères ont été invités. Je ne dirais pas convoqués, ont été invités à la HAC. Oui. Aujourd'hui même.
Le dias doit être en cours.
Ça doit être en cours.
Ils ont été invités à la HAC. Actuellement même. Parce que la HAC qui leur reproche d'avoir fait des articles portant sur
le terrorisme
au Togo. Voilà, et c'est...
Voilà. Lorsque vous voyez tout cela, je crois que dire que nous avons fait un bon et que nous sommes à la 70e place, on doit relativiser cela parce que D'abord, moi, je fais observer que le Togo se retrouve là, puisque le Togo, en 2022, était 100e sur 180 pays. Aujourd'hui, le Togo se retrouve à la 110e place parce que ceux qui étaient devant le Togo ont reculé. C'est-à-dire que vous prenez le Sénégal, par exemple. Le Sénégal était à la 113e place en 2022, mais aujourd'hui, le Sénégal a perdu 38 places et se retrouve à la 104e rang mondial. Vous prenez la Tunisie était devant le Togo en 2022, la Tunisie était à la 94e place. Aujourd'hui, la Tunisie est à la 121e place. De même que Haïti, Haïti aussi est devant le Togo à la 70e place en 2022. Aujourd'hui, Haïti est à la 99e place. Donc, ceux qui étaient devant le Togo ont reculé. Alors, si ceux qui sont devant toi sont obligés donc d'arriver derrière toi, donc toi, fortuitement, tu te retrouves devant. C'est-à-dire que lorsque je prends juste une image pour expliquer cela, lorsque vous êtes devant une queue, c'est vous êtes dans une queue à la banque, et que subitement, ceux qui étaient devant toi, on demande à ceux-là de venir derrière toi, donc toi, fortuitement, tu te retrouves devant. Mm-hmm. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé dans le cas du Togo, et que ceux qui étaient devant le Togo en plus reculer et que notre pays se retrouve fortuitement devant. Sinon, si on prend du moins sur le paysage médiatique et tous les problèmes, tout ce que les confrères ont traversé, si on prend tous ces éléments, vraiment sont en 10e place, on pourrait pas nous réjouir. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui font croire.
Alors, ta lecture du classement, bon, si les autres ont reculé, c'est que d'autres avancent.
Non, je ne veux pas peut-être, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas d'avis avec le confrère. Lorsqu'il prend ses éléments, je vais m'appuyer sur son exemple. Oui. Si vous êtes dans une queue devant une banque et qu'il y a certains, on demande à certains d'aller derrière, justement c'est parce qu'ils ont mal agi. Et toi, si on accepte que tu sois devant, c'est parce que tu as bien agi. Non. Si tu avais mal agi, on aurait. Oui, si tu avais mal agi, on va accepter que toi aussi tu ailles derrière. Bon, pour dire en tout état de cause, ce qui est sûr, comprenons que. Et il y a quand même des efforts qui ont été faits, ça c'est vrai. Sinon, ce n'est pas le Togo qui fait le classement, c'est Reporters sans frontières qui a fait le classement. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui ont été faits. Mais ceci étant, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de problème, que la presse n'a pas de problème. La presse a des problèmes, je viens de citer le cas de nos confrères, une pensée pour eux. Isidore et comment l'appelle-t-on et Ferdinand, une pensée pour eux, parce que imaginez-vous que c'est vous qui étiez dans cette situation, ça. Comment serait aujourd'hui vos familles, votre famille? C'est important. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on pense. D'où l'importance de ce débat de cet après-midi. Moi, je reviens là-dessus. Pour qu'on puisse en débattre. Pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer nous-mêmes et donner également la chance ou bien donner l'opportunité aux acteurs dans tout son ensemble. Et n'oubliez pas, je fais remarquer que depuis la nuit des temps, la presse est les gouvernants n'ont jamais coexisté. Ça, lorsque vous prenez l'histoire de la presse, de l'apparition de la presse, ça n'a pas été facile. Pas qu'au Togo seul, ça n'a pas été facile. Donc aujourd'hui, comme le dit quelqu'un en Guinée, nous revenons de loin. La presse revient de très loin et on s'est battu pour s'insérer. Continuons pas à se battre parce que nous avons un rôle à jouer pour le développement de nos sociétés, au sein de nos sociétés. Donc voilà ce que je pouvais
dire. Il y a également un élément à souligner. Il y a quelques années, je crois, entre 2010, le Togo était à la 50e rang mondial. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, si on se retrouve à la 100e et on revient à la 110e, en réalité, est-ce que c'est un bon? Maintenant, vous prenez même les tests, puisque tu viens donc de citer un certain nombre de tests que nous avons. Vous prenez les tests, vous aurez, en mars, l'ensemble donc des organisations de presse au Togo, les 7 qui existent aujourd'hui, ont demandé à ce qu'on puisse reviser le code donc de presse et de la communication, notamment aux articles 156 et 5 alinéa 2. Vous voyez? Donc ça veut dire déjà que les tests constituent d'une manière ou d'une autre une menace pour la profession. C'est pourquoi l'ensemble des organisations se sont réunies et demandé à ce qu'on puisse reviser cela. Donc il faudrait également qu'on fasse un plaidoyer dans ce sens-là. Pour que, c'est vrai, le métier est un métier à risque, mais il faudrait quand même que
je ne sois pas. Je pressens que ces sujets vont rebondir cet après-midi lors du panel. Nous avons choisi de ne pas trop en parler. Oui. Eh bien, est-ce que nos textes de loi constitueraient-ils des formes de menaces sur la presse au Togo? On en parlait. Mais il y a une menace. Et vous qui êtes directeur, vous devez le savoir, c'est l'économie. Je ne sais pas si vous, directeur, si vous êtes à jour du paiement des salaires de vos collaborateurs, quelles sont les publicités qui vous aident à tenir vos rédactions. Nous, à Canal FM ici, nous tenons, mais c'est parce que nous sommes résilients.
Vous n'êtes pas les seuls, hein?
Oui, aussi bien l'accompagnement de l'État, l'accompagnement de l'économie. Alors, Estelle, tu as le privilège d'être la seule femme parmi nous aujourd'hui, directrice de publication. Comment est-ce que tu t'en sors par les conditions économiques actuellement, Estelle?
Souvent, quand il n'y a pas de mots, il vaut mieux juste soupirer, c'est tout. Et nous travaillons dans des conditions assez difficiles, ça, il faut le dire. C'est notre journée, on ne va pas se cacher les choses. Nous travaillons dans des conditions assez difficiles où la mévente s'établit en règle. On sent que la population est intéressée parfois par des sujets traités, mais il y a ce désintéressement à la lecture, ce qui fait qu'il y a la mévente. Maintenant, de l'autre côté, peut-être ce sont les partenariats qui peuvent pousser aussi, mais bon, on a quand même l'impression, on ne sait pas sur quelle base ces partenariats-là sont également attribués, ça se fait. Je dirais juste que c'est compliqué. Il faut avoir de la passion pour le métier, pour toujours tenir, et c'est effectivement avec résilience qu'on continue par exercer ce métier-là. Sinon, si vous rentrez dans certaines rédactions, si vous voyez les conditions dans lesquelles nous travaillons, vous allez vous dire que quand même, ils ont le courage, ils essaient quand même de faire de leur mieux pour nous sortir tous les articles, pour nous sortir chaque fois leurs publications.
Et pourtant, on joue un grand rôle, ça.
Oui,
ça, il faut
on
le
reconnaît, c'est
il faut, c'est il le faut quatrième le dire. Pouvoir. Les gens nous ont félicité ici, je ne te coupe pas la parole, Estelle. Oui, on a eu à nous féliciter à des moments donnés, ici, dans ce pays, pour avoir joué un grand rôle, pour avoir permis quand même à la population d'avoir un certain nombre d'informations et de pouvoir adhérer à certaines initiatives. Ça veut dire que, au-delà de tout, les gens savent, les autorités savent que nous jouons un grand rôle. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion. Ça, si vous ne voulez pas qu'on en parle, qu'on va en parler énormément parce que c'est notre journée. Il faut qu'on saisisse l'occasion. C'est l'occasion, au moins, de faire des plaidoyers auprès des autorités, de se pencher sur la question, sur la situation des médias dans notre pays. Ailleurs, comparativement à d'autres pays, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pourquoi nous? On peut quand même se poser cette question et discuter, faire des plaidoyers auprès des autorités pour que ça puisse changer un tant soit peu.
Oui, Basile, ma question s'adresse d'abord à l'État naturellement, mais au-delà de l'État, au monde de l'économie et peut-être à nous-mêmes de la presse, quelles sont les dispositions que nous prenons pour nous vendre au prix que nous méritons, aussi bien auprès des autorités institutionnelles que au monde de la finance économique.
Oui, Innocent, lorsque vous avez évoqué ce problème, sincèrement, moi, j'ai les larmes aux yeux. Parce que la situation que nous vivons dans la corporation n'est pas du tout agréable. Ça fait 18 ans que Santé Éducation existe, déjà. Mais je vous dirais que c'est la croix et la bannière. Estelle vient de le dire que c'est la passion, oui. C'est la passion qui domine, qui nous domine et qui nous encourage. Et les populations aussi. Vous savez, Innocent, nous avons commencé à vendre le journal à 250, après à 500. Maintenant, nous sommes à 1000 francs. Et soyez prêts que les jours ou bien les mois à venir, là, ça ne sera plus ainsi. En le faisant ainsi, donc c'est que on pose une barrière aux gens de ne pas avoir accès à cet outil d'information. Donc, d'où cette nécessité. Moi, je dis toujours que il n'y a pas cette indépendance de presse. Parce que lorsqu'on dit indépendance, c'est qu'il y a un moyen, des moyens financiers derrière. Et que même s'il n'y a pas la publicité, il y a des mécènes dans les autres pays. Vous voyez sur des sites-là, les sources de financement des presses. Un individu peut se lever et dire que, vous, ce que vous faites là, je vais vous accompagner. Sans demander rien.
La presse, c'est des sociétés privées.
Oui,
en Europe aussi. En principe.
Non,
le micro, s'il te plaît.
Oui, c'est ce que vous dites, vous avez raison.
Oui.
Mais ce que je suis en train de dire, je parle de la presse française. Comment est-ce qu'elle est financée?
Francophone.
Francophone. Lorsque vous dites que publicité, c'est la publicité, c'est ça qui soutient, la presse. Et la vente, peut-être, ça ne fait même pas un quart des recettes. Et donc, je dis qu'au Togo, regarde la corporation. Nous sommes nombreux. Donc, il y a une multitude de presse. Et c'est ça qui enrichit même.
Alors, justement, Sylvestre Béni, il y a ce contraste. Hein, pendant que ceux qui sont dans le milieu se plaignent, mais chaque jour, on voit de nouveau arriver. Chaque fois que la HAC lance appel à ouverture, les gens inondent la HAC de demandes pour les récipients des journaux, de demandes pour obtenir les fréquences radio-télévision. Alors, comment on peut s'expliquer que ceux qui sont dedans se plaignent? Oui. Et que de nouvelles personnes veulent toujours y arriver.
Non, on ne peut pas les interdire, puisque nous venons donc de parler de la liberté de presse, mm-hmm. la liberté d'expression. Donc tout le monde a son mot à dire. Mais si certains estiment que le génie qu'il a, il ne le trouve pas pour l'instant sur le paysage médiatique et que lui-même veut venir à Rambo, mais bon, qu'il vienne, il y a certains qui sont venus, mais qui sont aussitôt repartis. Il y a également cet élément-là. C'est vrai que j'échangeais il y a quelques semaines avec un ambassadeur de la place qui posait également le même problème. Il parle donc de la multitude de la presse togolaise et tout. Il dit comment est-ce que nous arrivons véritablement à rester aussi longtemps mm-hmm. sur le paysage médiatique. C'est vrai que, en réalité, tel que les autres l'ont dit, c'est une question de passion. Ce que nous faisons en réalité ne nous permet pas quand même de refaire donc le prochain numéro, mais parfois c'est d'autres activités que nous faisons qui nous permettent donc de mettre l'argent du côté de la presse, parce que nous avons quand même cette passion là d'informer, de sensibiliser, d'éduquer, et donc nous venons, on le fait, on prend ailleurs, on vient mettre dans la presse, mais le hic, c'est que nous ne sommes pas assez soutenus également par les gouvernants, c'est également un fait, hein, puisque Chabouré vient de le dire tout à l'heure. Je crois il y a même un ministre qui nous a félicité au temps de Covid. Son nom m'échappe, mais je vais le rappeler tout à l'heure. Et le ministre Folie Bazi et le ministre Qatari, Folie Bazi, c'est
oui,
ça?
Oui, oui.
Oui, Folie Bazi Qatari,
de l'environnement.
Qu'il a dit ouvertement que le travail que vous avez fait au temps de Covid, franchement, c'était waouh et tout. Il a félicité la presse. Maintenant,
mais ça encore, nous étions sortis perdants.
Justement. Mais après, on a travaillé aussi au temps donc, de la Covid et tout. On nous avait promis hein, donc de nous donner ce que nous avons quand même engagé hein, au temps de Covid. Mais bon, finalement, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a gardé l'argent de la presse. Je l'ai dit jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas qui a gardé. Après, bon, on nous a sorti le rapport 2020 de la Cour des
comptes. Aucune trace même des journalistes par rapport à ces fonds.
Mais pourtant, on dit, il y a quand même une ligne. Mais qui a gardé la ligne là aussi, on ne sait pas. Voyez-vous, donc ce sont quand même des éléments parfois qui véritablement
nous... Merci, ainsi va la presse, ainsi va la journée. Mais nous y sommes et nous y restons en continuant cette émission, en parcourant rapidement... oui, Estelle?
Non, en fait, c'était pour corroborer, en fait, les propos de Sylvestre et en même temps répondre à l'une de tes préoccupations par rapport au foisonnement, en fait, de la presse aujourd'hui pendant qu'on éprouve des difficultés.
Oui.
Je crois que le nouveau code vient répondre un peu à cette préoccupation aujourd'hui. Vous verrez cet après-midi par rapport à la présentation du rapport de pratiquement 325 organes. Nous sommes aujourd'hui à 88 organes de presse au Togo. Hein, écrits en presse écrite, qui sont légalement reconnus et dont l'existence est légale. Donc, c'est à ces préoccupations que le nouveau code vient également répondre. Et il faut dire ouvertement que nous avons besoin de nous réorganiser même au sein de la corporation. C'est important, nous ne le cachons pas. Il faut qu'on s'organise et on fera entendre notre voix vis-à-vis de l'autorité également, qui a d'autres responsabilités également à prendre. Quand on nous met la pression pour respecter certaines règles et tout, il faut que l'autorité prenne également ses responsabilités vis-à-vis de nous. Et c'est ensemble qu'on pourra faire mieux.
Anam.
Oui, Innocent, c'est pour rendre hommage à cette dame qui fait un travail extraordinaire. Elle est la seule d'ailleurs dans cette corporation aujourd'hui à être directrice.
Pardon.
Donc vraiment,
il y a également le dialogue.
On doit l'assurer. C'est une dame. Hein, parce que c'est pas facile. Nous avons fait ces expériences-là et nous savons ce que c'est. Et donc vous allez trouver ici avec les collaborateurs.
Merci
beaucoup. Que vraiment félicitations.
Nous l'avons accueilli.
Merci
félicitations
beaucoup.
Et puis bon courage à tout ce que tu as
dit. Merci
infiniment.
Et bien sujet suivant, c'est le recensement électoral qui est à son cinquième jour dans la zone numéro 1. L'opération a commencé le 29 avril pour prendre fin le 6 mai prochain. Alors sur le sujet, le Républicain Info écrit aujourd'hui de l'affluence dans les centres au premier jour du recensement électoral, sauf que le Magnat Libéré note lui aussi un début, la mobilisation des populations, mais un début difficile, notamment les insuffisances des kits, la lenteur des opérations, les kits qui tombent en panne, et quand vous allez, c'est de longues files qui se forment dans les centres de recensement. Hier, une auditrice nous a appelé, qu'elle s'est rendue vers Aveposo à 8h, et c'est à 17h qu'elle a pu repartir, et alors qu'elle n'avait même pas réussi à avoir sa carte d'électeur. Voilà, et je ne sais pas d'abord si vous ici, si vous avez déjà votre carte d'électeur. Sylvestre?
Non, pas encore.
Pas encore.
Et Anam?
Non, pas encore.
Je rappelle que c'est samedi que ça finit.
Oui, on va demander une prorogation, puisque les deux premiers jours, véritablement, ça n'a pas marché. Ça, il faut le dire.
Même jusqu'à là, en fait, je ne sais juste ce qui se passe comme problème, sincèrement. Il y a des plaintes partout. Même quand tu fais un tour sur la toile, des gens se plaignent. Des gens s'y sont rendus la veille pour sauvegarder leur place le lendemain. Ils sont là jusque dans la soirée, à 18h, sans se faire enrôler. On ne sait au juste ce qui se passe.
Voilà le rôle que nous jouons.
Il n'y a pas la communication.
Voilà le rôle que nous jouons en ce moment, nous médias, le fait de porter quand même la voix de ceux-là qui murmurent dans les petits coins pour que l'autorité puisse être au courant. Je parle de l'autorité de la CENI, en fait, qui est chargée de ce recensement, pour qu'elle puisse être au courant qu'il y a des problèmes ailleurs, qu'elle doit se lever.
La CENI devait le savoir, parce que derrière, en dessous de la CENI, il y a les CELI.
Il y a les CELI,
sûrement. Et après, il y a...
Il doit faire le rapport chaque jour.
Non. Ce qui est sûr, la CENI est au courant de ces problèmes. Maintenant, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on amplifie. Il faut qu'on dise ce qui se trouve sur le terrain exactement. Et c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et je m'aligne derrière ce que vient de dire le confrère. Nous pensons qu'il serait intéressant quand même de proroger, ne serait-ce que quelques jours, pour permettre, parce que lorsque vous allez, l'affluence est monstre. Et non seulement l'affluence est monstre, les problèmes sont là. Vous venez d'évoquer un cas tout à l'heure. Quelqu'un qui va à 8h et il part à 17h sans avoir sa carte. Vous imaginez? Et que ce n'est pas ça seul. Ailleurs, c'est la catastrophe. Franchement, que si les responsables de la CENI nous écoutent en ce moment, qu'ils puissent savoir que les problèmes sont là et qu'il faut déjà penser éventuellement à une prorogation.
Voilà, c'est un constat.
Il y a même un confrère, je ne vais pas donner quand même son nom, qui a presque joué le rôle de la CENI, puisqu'il s'est rendu dans un centre et l'appareil est en panne. Ça fait plus de 4 heures de temps, les gens s'impatientent et les techniciens ne venaient pas. Donc, il est obligé de calmer les ardeurs, mais à un moment donné, il a confessé devant donc l'insistance et la foule devenait plus incisive, donc il a fui.
Non, oui, il y a un instant, je pense que les autorités ont oublié un aspect, c'est-à-dire que la population n'est plus la même comme s'il y a 2 ou bien 3 ans. La population a augmenté.
Mais si nous avons le résultat du dernier recensement, c'est que les membres de la CENI et Gasson supposaient savoir que la population togolaise a augmenté.
Parce que quoi, dans notre bureau de vote à Zanguera, l'établissement, c'est chaque année, on prend toujours trois classes. Cette année aussi, on a pris 3 classes. J'ai demandé aux responsables. Vous ne voyez pas avec cette grande affluence que la population a augmenté, parce que ce sont des décisions qu'on devait prendre en amont vraiment pour pallier à ça. Sinon, nous serons obligés. Parce que ce matin, j'étais là-bas à 5h. Je vous dis qu'il y avait déjà la queue. la queue était monstre. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il y a un problème. Donc, inéluctablement, on doit prolonger encore.
Oui, justement, quand nous sommes sur une pratique comme ça, ou un exercice que moi je trouve capitalissime, puisque ce recensement doit permettre d'effectuer au moins 3 élections au Togo, dont le fichier électoral devait être vraiment nickel. On ne doit pas avoir de doute par rapport au recensement. Et dans ces circonstances, avec toutes les plaintes qu'on lit sur la toile, il est de bon ton que la CENI prenne ne serait-ce que certaines initiatives pour rassurer d'abord les populations et expliquer s'il y a un souci pour que les populations comprennent également le dysfonctionnement et prennent également leurs responsabilités au lieu de faire le pied de grue pendant toute la journée alors qu'elles ont d'autres occupations. Donc c'est en cela qu'intervient également la communication en ces périodes-là pour rassurer et situer l'opinion. C'est vraiment important.
Peut-être pour finir, il est temps qu'on fasse un peu comme le Bénin. Vous voyez leur carte blanche là, c'est-à-dire ils le font pour 5 ans. Ils l'ont, c'est comme notre carte d'identité. Vous voyez, si à chaque fois on a encore sorti de l'argent, à chaque élection, faire ces cartes et tout ça, je crois que c'est, il faut l'avoir pour 5 années.
Peut-être, sauf que chaque année, il y a de plus en plus de jeunes qui atteignent la majorité.
Oui, ils prennent la même chose.
Ans,
oui.
Qui ont aussi besoin de se faire enrôler et d'avoir la carte d'électeur.
Toute œuvre humaine a toujours des...
Est susceptible
de perfectible. Hein. Voilà. Et je crois que nous sommes dans cette phase. La CENI, on l'a compris, c'est vrai, elle a envie de travailler, mais il y a des problèmes. Qu'elle se rende compte qu'il y a des problèmes. Maintenant, il faut trouver des solutions pour pallier à ces
Merci.
Problèmes.
Merci. Le sujet suivant, c'est le cas qui était dernièrement à son congrès avec ce que nous savons déjà. Alors, retour là-dessus avec le Républicain Info qui écrit « Triste spectacle, le cas qui a clôturé son congrès sans un successeur à feu à Gboïbo. 4 candidats qui n'ont pas pu s'entendre, il n'y a même pas pu avoir désignation ou élection. » Et la manchette, Sylvestre Béni, ton journal nous propose le film de ce que tu appelles un total chaos.
Oui. Si, je crois que c'est un total chaos. On ne peut pas trouver mieux que ça. C'est un total chaos ce qui s'est passé pour ces 2 jours donc, du quart. Au début, il y avait 6 candidats. Il y a 2 qui ont désisté. Le premier, le deuxième vice-président, et Nador et Kolani qui ont désisté. Puisque maintenant, ils sont passés donc, du côté donc, du Présidium pour organiser les élections. Donc, il reste 4 candidats. Il y a Jean Kissi, il y a Yao Daté, il y a la dame à Kosoua Yemé. Et puis, il y a Togbi Sylvain Dagban qui. Donc, c'était les 4. Maintenant, selon donc, les informations de tradition, depuis donc, la naissance du parti, c'est un consensus qu'on trouve. Et puis, après, bon, le reste, c'est des formalités. Et puis, on passe à l'élection donc, du bureau. Mais sauf que la dernière fois, les 4 ont des positions tranchées. Personne ne veut céder à l'autre pour que l'autre puisse porter sa candidature et aller donc à ce consensus. Et véritablement, si je dis le chaos, c'est véritablement le chaos, puisque à un moment donné, même l'ancien député Nicolas Agbo s'est levé donc de sa chaise et allé sur le podium pour arracher le micro des mains donc de Nador. Il voulait en fait se prononcer contre une décision qui venait d'être prise. Et c'est le technicien qui est habile et qui a coupé donc le son. Et puis quelqu'un d'autre est monté, voulant donc lui donner un coup. Et c'est véritablement. Les vidéos circulent, ça s'est transformé en pugilat. Et donc, si tu dis que le congrès a été clôturé, c'est de l'euphémisme. Parce que, à la fin, on a dit, on part, quoi. Et puis, même les délégués du Nord sont même partis avant cela et tout. Donc. Vraiment, c'est un tout.
Probablement, Agbo est parti avec son consensus. Et puis, vraiment. Oui, il est parti avec son consensus, puisqu'il était, il avait l'art du consensus, comme Sylvestre venait de le dire. On ne peut pas comprendre que de grands garçons, de grandes dames qui sont à la tête de ce parti, qui a eu quand même à apporter quelque chose dans ce pays, lorsqu'on dit car aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que le car a joué un grand rôle dans ce pays, dans l'apparition de la démocratie, mais voir ce parti en train d'aller dans ce sens, franchement ça fait mal, et comme je l'ai dit, Agbo est parti avec son consensus.
Eh bien, plusieurs jours après, beaucoup de journaux trouvent important et opportun de revenir sur l'entretien que le chef de l'État a accordé à nos frères et amis de Neo TV au soir du 27 avril dernier. Le Magna Libéré nous reproduit l'interview en intégralité. On pourra le lire à tête reposée. Nouvelle Opinion nous dit que Faure Gnassingbé s'est prononcé sur les sujets de l'actualité. Le Messager lui trouve que Faure Gnassingbé a défendu le Togo contre les agresseurs. Togo Matin, lui aussi, écrit terrorisme, selon Faure Gnassingbé, maintenir la menace à distance. La Dépêche lui trouve qu'aucune question n'a été adressée au chef de l'État sur les fonds du Covid. Et la Dépêche, il trouve que de mépris pour les Togolais. Et la Manchette, lui, voit dans cet entretien rien de plus et de moins que de la navigation à vue qui est confirmée. Un rapide tour de table.
Non, c'est une navigation à vue. Et c'est confirmé d'ailleurs. Lorsque vous prenez le chef de l'État qui dit, par exemple, ma conception du pouvoir n'est pas celui d'un guide qui fixe un cap. Là, je crois que tous les Togolais qui seront surpris. Parce qu'en réalité, c'est lui qui nous a dit en 2020, allons-y. Mais là, nous allons où? S'il n'a pas fixé de cap. Si, on dit, allons-y. Bon, on va où, monsieur le président? Maintenant, c'est le guide qui nous dit que non, qu'il n'a pas fixé de cap. Or, c'est lui-même qui a demandé aux Togolais d'accéder donc à la magistrature suprême et de peut-être conduire le pays vers, je ne sais pas, l'ordre de l'humanité. Maintenant, lui dit que non, que c'est pas lui, c'est pas sa conception, il n'est pas un guide. Or, nous savons que c'est le... si nous ramenons peut-être la réflexion à une partie, à sa portion congrue, c'est comme si, nous savons tous que c'est le berger qui guide le troupeau. C'est le berger qui sait là où il amène les troupeaux pour le pâturage. Mais il dit non, que lui, c'est pas ça. Lui, dans sa conception, c'est pas ça. Donc, il attend que une aventure collective. Mais si c'est une aventure collective, tout le monde peut être président. Juste le PND. Le chef de l'État nous dit que oui, nous avons un programme, le PND, mais quand nous sommes allés en campagne sur le terrain, les messages qui venaient ne sont pas tout à fait alignés à ce qui se trouvait dans le PND. Alors, ma question de savoir, quel est le diagnostic que le gouvernement a fait avant donc de faire ce programme-là? Et donc, vous avez fait le programme, vous retrouvez sur le terrain, vous retrouvez que c'est en déphasage avec les aspirations profondes du peuple togolais. Vous voyez, donc, c'est tout ça la confie que c'est une navigation à vue.
Et là, dit que le PND est amélioré en feu de route gouvernementale. Justement. Mais il y a quand même une évidence. Oui. Faure Gnassingbé a réaffirmé sa détermination à défendre le Togo, notamment contre le terrorisme.
C'est ce qui m'a intéressé. C'est ce qui m'a intéressé. Et c'est ce qui m'a plu au-delà de tout par rapport à la forme d'ailleurs. Je pense que ça nous fait honneur aujourd'hui. Ça, et tout le monde l'a relevé. Le fait que Faure Gnassingbé a finalement accepté quand même de se livrer à la presse locale. Ça, c'est un fait qu'il ne faut pas négliger. Ça, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on aurait aimé que ça soit fréquent. Mais ça, c'est un fait qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, pour le fond, chacun peut aller de son commentaire. Mais ce qui est intéressant, parce qu'au-delà de tout, le confrère a dit quelque chose tout à l'heure, parfois, il ne faut pas qu'il oublie que les bœufs peuvent guider, ou bien les troupeaux peuvent guider quand même le berger. Ça, c'est important. Oui, j'en ai fait. J'ai été berger, j'en ai fait parfois. Parfois, les bœufs ou les moutons prennent le devant et tu es obligé quand même d'aller. En tout cas. C'était pour faire rire. Mais il faut dire quand même que le chef de l'État, en le disant, c'est pour dire que la sécurité du pays, c'est une œuvre collégiale. Ça doit intéresser tout le monde. Oui. Il ne l'a pas dit pour faire comprendre que non, il faudrait que tout le monde vienne pour que qu'on puisse décider ensemble. Au-delà de tout, il est le chef du bateau et il a la responsabilité de prendre un certain nombre d'initiatives. Et lorsqu'il prend ces initiatives, oui, je pense qu'il a besoin du soutien du peuple. Oui. Et c'est de cela qu'il s'agit.
Merci Estelle.
Et en fait, c'est la première sortie du chef de l'État avec la presse locale. C'est le premier pas qu'il faut peut-être féliciter, espérant que ce sera reconduit les prochaines années sous d'autres formats avec l'élargissement peut-être au niveau des médias. Mm-hmm. Mais en plus de cela, il faut reconnaître ou admettre que le chef de l'État même a plaidé coupable sur certains aspects. Mm-hmm. Donc moi, j'attends de voir les prochaines années ou les prochains jours s'il va revenir sur cette décision et que sur ces aspects-là et que des décisions soient prises dans ces domaines pour rectifier le tir. C'est en cela qu'on peut effectivement faire confiance en l'homme et le juger encore sur ses actes.
Voilà, oui, oui, vraiment, comme Serge vient de le dire, nous avons eu à féliciter la sortie du chef de l'État pour une première fois. Là, c'est un bon exercice qu'il a réussi brillamment. Même s'il y a des insuffisances, on peut discuter après. Mais comme il vient de le dire, quelqu'un a pris la partie qui l'intéresse. Et c'est moi. Oui, oui. La santé, éducation a pris un aspect que le chef de l'État soulevait, c'est le registre social. Donc si on prend le registre social et puis on le mettait en place, on saura exactement qui sont ceux-là qui sont les nécessiteux, qui sont ceux-là qui sont les vulnérables, que l'État prendra en charge pour régler un temps des problèmes sociaux un temps soit peu. Donc, si on arrivait à mettre sur pied ce registre social, ça serait vraiment très intéressant. Et ce sont les populations qui sont...
Comme quoi les commentaires dépendent de l'angle d'appréciation de chacun.
Par ce communiqué signé du ministre de la Sécurité de la Protection Civile daté du 28 avril 2023 qui dit que dans le cadre de la préparation à la réponse aux éventuelles situations d'urgence en 2023, le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, à travers l'Agence nationale de la Protection Civile, ANPC, organise du 2 au 8 mai 2023, un exercice de simulation grandeur nature dénommé Tilibiki. Si je ne coche pas trop, Tilibiki 2023, qui signifie en langue Konkomba, prévention des catastrophes. C'est un pays Konkomba.
Ah ouais, le Grand Bassar.
Le Grand Bassar. Voilà. Merci beaucoup. Donc cet exercice de prévention des catastrophes en pays Konkomba porte sur trois aléas récurrents dans la région, notamment les inondations, les conflits communautaires et les épidémies. L'exercice se déroule donc du 2 au 8 mai dans les cantons de Nampoche, de Natitikpi et de Natibore dans le Dankwen et de Helota dans la partie de la Kéran. Ces cantons identifiés pour leur vulnérabilité face aux aléas retenus pour l'exercice. Voilà un exercice d'anticipation. On fait l'exercice comme ça. Si ces catastrophes devaient survenir, IARC et ces éléments de l'ANPC seraient où mettre les pieds. Il est midi passé de 3 minutes. Nous marquons notre pause. Le temps de souffler un peu, que Michel adresse le clin d'œil de Canal FM à nos partenaires. Et puis nous renouons l'émission avec les auditeurs. 93.5. Nous avons parlé des prestations que va nous offrir l'hôpital Dr Lafière. On a continué avec les articles de santé et éducation. Nous sommes revenus abondamment sur le 3 mai, qui est la journée mondiale de la liberté d'expression ou de presse. On a terminé avec le congrès du CAR, l'entretien du chef de l'État au 27 avril, et puis également le recensement électoral qui est en pleine action. Sur l'un ou l'autre sujet, la parole est à vous. Premier auditeur, bonjour.
Allô.
Oui.
Ah, j'ai eu l'honneur de rencontrer Anthony.
Ah, c'est voilà, ici.
Vous avez parlé. Oui, ici.
Oui, nous vous écoutons ici.
Voilà, vous avez parlé de tout. Franchement, du coup, du président, pour une fois. Jamais fait. Une fois, mais bon, il n'a rien dit, pratiquement rien dit. Et puis, tout le reste, quoi. Et puis, voilà, on est fatigué avec tous ces problèmes. Et puis, des problèmes, même eux-mêmes qui règnent, et je le dis souvent, ils sont même fatigués, visiblement, de régner sur nous, quoi. Et puis, voilà. Et moi, je veux dire aussi que je serai cette jeune gouvernante, là, du Togo actuel. Je serai pas comme les aînés.
Oui.
Du faux, de la fraude, du traficotage à outrance. La corruption, la gabegie, la violence, tous les vices de la terre. Je ferai autrement que les parents. Je ferai autre chose pour que le Togo rayonne, que ça s'écrive en bien dans l'histoire. Je ferai pas tout ça là.
Merci. C'est pourquoi il y a les élections au cours desquelles les citoyens peuvent choisir
une nouvelle
gouvernance.
Il n'y aura pas 2005. Il faut qu'on en arrive là. Hein, tout sera bien, quoi. Le Togo va rayonner.
Merci. Et si 2005 est déjà passé, nous avons devant nous les prochaines élections. Peut-être que vous pourriez vous porter candidate à une élection et comme ça, et vous commenceriez à faire les choses autrement. Merci beaucoup, Essi, d'avoir lancé le débat. La parole à présent est au suivant, la suivante. Bonjour.
Oui, monsieur Sal, bonjour.
Oui.
Je voudrais vous souhaiter quand même une bonne journée.
Merci, c'est gentil.
Oui, oui. Mais c'est le journaliste qui devait se sauver d'eux-mêmes. Et parfois, ça se passe aussi dans les églises. Il y a d'autres qui prient pour la bonne semence. Il y a d'autres qui sont là pour le contraire. Et c'est partout, dans toutes les corporations. Donc, les journalistes doivent se sauver d'eux-mêmes. Ce n'est pas Sylvain qui viendrait sauver les journalistes à leur place.
Merci. Ouais. Merci de nous le rappeler. C'est nous-mêmes et nous seuls qui pouvons nous sauver.
Oui.
Mais quand même, nous comptons sur vous.
Et notre rapport est le bienvenu.
Merci beaucoup, Sylvain Agbaï.
Oui, merci.
Merci. Un troisième auditeur déjà en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est le pasteur Guinée.
Depuis Amoutivé.
Depuis Amoutivé, voilà.
Nous vous écoutons.
Ouais. Monsieur Sass.
Oui.
Moi, je voudrais parler de l'enrôlement, là, pour les élections.
Oui.
Vraiment, avec la lui là, on donne, je crois, 2 semaines. Est-ce
non, non, c'est une semaine. C'est une semaine. C'est une semaine par zone. Oui.
Pour chaque zone.
Oui.
Bon, pour cette zone-là, je ne crois pas qu'on peut enrôler tout le monde avant samedi. Hein.
Okay. Et
parfois, on dit que c'est la machine qui est gâtée.
Oui.
C'est l'encre qui est finie. Ainsi de suite, quoi. Donc, on n'a qu'à essayer, le gouvernement n'a qu'à essayer, s'il peut encore ajouter quelques jours pour que tout le monde puisse s'enrôler.
Okay. Merci, bonjour. Nous laissons le soin à la CENI d'évaluer l'action au jour le jour, prorogation par prorogation, on verra bien, sauf que la prorogation a également son coût, ses conséquences financières. La CENI avisera en temps opportun. Le suivant, bonjour.
Allô?
Oui.
Bonjour, mon patron.
Bonjour, c'est Patrick.
Oui, salut.
Oui.
Comment vous allez?
Patrick, vous avez déjà votre carte d'électeur?
Comment? Je suis allé ce matin, comme vous m'avez posé la question, je suis allé au niveau de Côte Beaune, derrière le tribunal qu'on dit ici, le quartier des Étoiles. Là.
Oui.
Monsieur Sass, je suis retourné.
Pourquoi?
L'influence, un. Et deux, moi, je ne peux pas faire de polémique. Hein. C'est vrai ce que les gens vous racontent là-bas. Hein. Il y a affaire là-bas. Les gens font affaire. J'ai voulu même filmer, mais moi-même, c'est un truc qui ne me plaît pas beaucoup parce que c'est pour mûrir à quelque chose, pas demain. C'est vrai ce que les gens vous disent. Il y a de n'importe quoi dans les écoles pour ce recensement.
Des gens font trafic d'influence et trafic d'argent, pour ne pas dire business, pour faire passer certains avant les autres.
Le comble, c'est des personnalités là. Des hommes même à tenue, c'est moi qui vous dis. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, le pourquoi j'ai appelé là, est-ce que l'homme de Sarkozy Éducation est toujours là?
Il est là.
D'accord. Et j'aimerais poser la question, parce qu'il a misé sur le fait de boire beaucoup d'eau là.
Oui.
C'est pour lui demander, quand est-ce qu'il faut boire de l'eau? Je sais que quand tu as soif, tu vas boire de l'eau. Mais paraît-il qu'au moment du manger, il est déconseillé de boire beaucoup, du manger et après... Le manger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas finir en même temps de manger et boire. Est-ce que c'est vrai, cette vérification?
Très bien.
Bon, et de deux, ça, si vous me le permettez, bien sûr, il y a une information très capitale, très, très dangereuse que je peux vous dire si vous nous acceptez. C'est au niveau du commissariat central. Vous voyez, au niveau de la route, actuellement, il y a un danger de mort là-bas. Là où il y a le trou, ils ont mis les fers là. Les fers là sont déjà, ça ne s'est pas abîmé. Et ça a causé un grand trou là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu mettre l'herbe pour moi, faire signe aux usagers qu'il y a un danger là-bas.
Il y a un trou dans la chaussée.
Je suis, quand vous dépassez comme c'est la centrale, dans l'œil de la fontaine lumineuse là,
oui.
En allant vers la grande pousse là, ben, vous ne voyez pas au milieu de la rue, à côté de la BOAD là.
Oui, oui.
Il y a un cerf qui a traversé.
Oui.
C'est un danger. C'est un trou. Quelqu'un a mis une herbe là-bas pour faire signe aux usagers. C'est dangereux. Je ferais partie d'un côté carrément. Tout à l'heure, je viens de passer par là.
Il y a une barre de fer là-bas. Oui. Souvent, quand vous passez dessus, ça fait un bruit d'enfer.
Oui.
Il y a un trou.
Et on a mis le fer là-dessus, quoi.
Ok, comme c'est voisinage immédiat du commissariat central de la BOAD, les deux peuvent aller, peuvent envoyer, regarder avant que le maire ou le ministre en charge des infrastructures n'aille voir.
D'accord.
Merci beaucoup. Je rappelle que la BOAD finance beaucoup les routes. Voilà la rue qui passe derrière, devant son siège qui est dans cet état. Charité bien ordonnée devrait commencer par soi-même, n'est-ce pas? Merci beaucoup. L'auditeur suivant.
Allô, bonjour, monsieur.
Bonjour.
Je suis de Saguadon.
Quartier de Saguadon, nous écoutons.
Oui, je salue le plateau.
Mm-hmm.
Je salue tous les journalistes.
Merci.
De vous là-bas. Le débat est vraiment riche. Ils sont en train de bien analyser la situation.
Merci.
Quel du Togo.
Mm-hmm.
Surtout concernant l'enrôlement.
Oui.
C'est très bon. Je vous apprécie. Bon, je veux dire par rapport, si vous permettez, monsieur Tan. Qu'est-ce que nous avons fait au gouvernement pour qu'il construise la route de Palimé, la route de Sud, et ne pas mettre la lumière? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais qu'est-ce que la population fait? Que celui qui est responsable de ça nous le dise. Mais de mieux que la route soit dans un état piteux, qu'on ne puisse pas rouler vite et vivre.
Bon, disons que les routes sont tracées à ce niveau. On a fait les installations électriques, on a mis les poteaux, les fils, les lampadaires, mais il n'y a pas la lumière.
Voilà.
Et mieux ou pire, surtout au grand carrefour douane, les feux tricolores ne sont pas mis. Et là, du matin, tôt le matin jusqu'au tard au soir, c'est les policiers qui sont là-bas qui essaient de régler la circulation dans ce grand carrefour. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on mette la lumière sur les routes et le feu, les feux de signalisation à ce carrefour? L'ami Kossi, merci beaucoup pour ce plaidoyer.
Merci,
je vous en prie. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Komi.
Komi.
Pour y ajouter, le samedi nuit, il y avait une petite pluie quand vous descendez de Ségbé vers la douane. Comme il n'y avait pas de policiers pour réguler, tout était bloqué.
Mmh.
Vous pouvez faire 31 heures de temps, ça fait 1-2 mètres. Parce que personne n'est là pour la courtoisie, ni pour s'aider pour que les choses soient au bon ordre.
Oui. Oui. Et il n'y avait surtout pas les feux de signalisation au carrefour.
Voilà, au 21e siècle. Et merci pour l'émission. Ma première question, vous avez parlé de Dr Lafia.
Oui.
Moi, je me programme à me faire consulter, mais comme les journalistes en ont parlé, nous souhaitons c'est que cela représente vraiment un centre de référence.
Mm-hmm.
La question est de savoir, est-ce que vous avez fait le déplacement vous-même pour aller constater? Je vais parler à Inam, le journaliste qui a donné son
Basile
nom.
Basile Binyanke de Santé Éducation.
Oui, il a donné un nom qui m'a beaucoup
plu. Annam.
Annam, voilà.
C'est son prénom authentiquement, 100% Kabyé.
Voilà,
comme
est-ce
vous,
que lui-même.
Comme vous êtes commis.
Secondo, et aujourd'hui c'est la journée des médias.
Oui.
Moi je tiens à vous féliciter, surtout ce travail au Togo.
Merci.
C'est vraiment difficile.
Merci.
Et vous comptez sur nous. Là aussi, nous, population, nous devons reconnaître notre part. On ne paie plus les presses. Moi, présentement, j'avais des abonnements, mais je ne l'ai pas renouvelé.
Mm-hmm.
Et ça fait longtemps. Donc, quand les gens disent, c'est vous-même qui vous allez vous aider, je convie la population togolaise au moins à acheter une presse par mois ou bien par semaine. Ou soit les bimensuels qui sortent là.
Mm-hmm.
Faisons au moins ce minimum de vous aider. Et à quant à ce qui vous concerne, j'ai pu comprendre que l'atmosphère est viciée et que vous, chacun, même pour débattre, cherche les mots dans la tête. Et vraiment que vous dépassez ceci pour être réellement le quatrième pouvoir. Merci.
Je vous en prie, l'ami Komi, un dernier auditeur. Bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Oui.
Oui, c'est Johannes.
Johannes, nous écoutons.
Faut pas laisser seulement l'état des lieux.
Pardon?
Il a fait l'état des lieux. Sinon, si on veut faire confiance uniquement à la CDC, on est perdu.
Non, Johannes, nous vous écoutons mal. Nous vous écoutons mal.
Bien.
Oui.
Faites aussi l'état des lieux pour la tenue. Il ne faut pas laisser seulement la tenue faire l'état des lieux. Sinon, si c'est, on peut faire uniquement confiance à la tenue, on est perdu. J'espère que vous me...
Bon, je ne sais pas si vous... La voix se robotise et nous avons du mal à bien percevoir le...
Oui, maintenant c'est bon.
Bon, éloignez un peu votre bouche de votre... Oui. Oui, allez-y.
Oui, je disais.
Oui.
Concernant les enrôlements.
Oui.
Oui, il ne faut pas seulement faire confiance à la CENI pour faire état des lieux, pour savoir si ça se passe bien ou pas. Aider aussi la CENI à faire l'état des lieux là.
Mais c'est ce que nous faisons depuis hier. Nous relevons les manquements, la lenteur, l'insuffisance des kits, les business qui se font au détriment des c'est cet état que nous dressons.
Oui. Non, si on veut faire confiance à la CENI, si on veut faire la CENI pour faire l'état des lieux, on sera déçu.
Ok. Bon, nous faisons notre travail de veille et d'éveil, mais nous n'allons quand même pas nous substituer à la CENI. Il faut que chacun fasse son travail. Merci quand même pour votre vigilance. C'est vous qui me tenez en haleine. Alors, Basile, deux questions. Quand boire de l'eau? Quels sont les moments indiqués pour boire de l'eau?
Oui, disons, je parle de l'article que Santé Éducation a publié la semaine passée, où il y a une nutritionniste qui donnait une précision sur la manière de boire de l'eau, surtout au moment de manger. Et elle a été claire, elle a dit qu'à tout moment, on peut boire de l'eau. Si l'organisme tire sur la sonnette d'alarme, on sent, on boit. Mais au moment de manger, elle a dit que ce n'est pas bien qu'en mangeant, qu'on puisse boire de l'eau. Parce que ça entraîne des fluctuations.
Oui.
Donc, elle a souhaité que au moins on boit 30 minutes avant le manger, ou bien on mange et 40 minutes après, on peut boire de l'eau. Là, on aura une bonne digestion et l'organisme est soulagé.
Merci. Selon l'avis de la... Il faut boire au moins une demi-heure avant de passer à table et boire encore une demi-heure, 40 minutes après le repas.
Tout à fait.
Ça, c'est l'eau.
Tout à fait.
Maintenant, il se veut qu'il n'y a pas seulement l'eau sur la table.
Y a quoi?
Et les autres boissons...
Non, les autres boissons, ce n'est pas au moment de manger qu'il faut boire vraiment les boissons. On parle de l'eau même.
Hein, de l'eau même.
L'eau H2O.
Merci beaucoup. Alors, l'ami Komi a voulu savoir si Santé Éducation s'est rendu, si vous êtes rendu vous-même à Dr Lafia pour constater, vu de vos propres yeux... Comme un certain président l'a dit au moment de la conférence en France.
Oui, j'ai pu remarquer que c'est le lieu, j'avais dit ça en amont lorsque on a commencé l'émission, que c'est le lieu de communiquer autour du fonctionnement de cet hôpital.
Oui.
Parce qu'on ne peut pas quitter de soi pour se rendre dans ce centre-là. C'est les centres périphériques. Comme les
non,
CMS.
La question, est-ce que vous avez envoyé quelqu'un visiter
Non, 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 actuellement, non, actuellement ça a été dit avant même que l'inauguration ne soit faite. Il y a 500 consultations. Il y a eu 500 consultations. Et que d'ici la fin d'année...
En réalité, l'auditeur voulait savoir, est-ce que vous avez vu, si vous voulez, de votre propre yeux, les installations au niveau de
Dr.
On a visité les installations.
Et vous avez d'ailleurs même publié quelques images.
Tout à fait. Voilà. On a vu les gens se faire consulter.
Voilà.
Mais ce n'est pas à un niveau encore élevé comme c'est tout de
la. Merci. Tu as la parole. Tu la gardes pour 30 secondes. Une dernière précision, voire un carton de fin d'émission.
Non. Pour moi. J'ai voulu attirer l'attention de nos populations sur la maladie de l'heure. Lorsqu'il commence à pleuvoir, nous avons un visiteur qu'on n'aime pas dans nos communautés. Je parle du paludisme. Il y a encore
une récurrence hein, dans nos formations sanitaires en termes de consultation. Donc, qu'est-ce que le PNLP demande? Le PNLP a fait un communiqué disant que les jarres non protégées, les puits abandonnés et les puisards non couverts sont source de multiplication des moustiques. Donc, qu'est-ce que le PNLP nous demande? C'est d'éviter, c'est de détruire tous ces
respirants, les nids, tout ce qui peut contenir de l'eau
et puis surtout,
les moustiques autour de nous.
Et puis surtout, de dormir sous une moustiquaire imprégnée. Là, on a une barrière contre cette maladie.
Merci. Estelle?
Oui, tout est dit. Je vous convie cet après-midi à l'hôtel Concorde pour la célébration.
Vous nous conviez. Tu as dit je.
Ok, l'OTM vous convie. Ah, c'est, disons-le. L'OTM à travers ma foi vous convie.
Hein, demande la prise en charge. Hein.
Ah, oui. Pour la célébration de notre journée. Et je n'ai pas de carton, mais je voulais attirer l'attention de. Je crois que c'est le maire Abouka au niveau de Dijolé.
Mm-hmm.
Au niveau du feu rouge de Anadev. Là-bas, tous les feux s'allument simultanément. Et c'est un peu difficile pour la circulation.
Donc, c'est un carrefour démocratique. Chacun choisit sa couleur.
Ça fait depuis quelques semaines que le constat est fait. Donc, vivement que les dispositions soient prises pour qu'on trouve une solution. Ça pourra éviter éventuellement des accidents et tout ce qui s'en suit. Donc, bonne fête à nous tous.
Je prends le dernier volet de Christelle pour dire que ce n'est pas seulement à ce carrefour. Si vous circulez à Lomé, c'est partout. Et puis, depuis des années, nous crions. Allez-y au carrefour Le Meugan, vous allez voir. Ça fait plus d'un an. On crie ici, mais aucun maire ou aucun responsable administratif n'est sorti pour dire quoi que ce soit. Et les accidents, c'est chaque jour. Franchement, ce n'est pas bien. Et ça ne fait pas honneur au pays. Parce que il y a les étrangers qui viennent dans le pays, ils font le constat, et quand on parle, moi, j'ai honte. Et vous aussi, certainement, vous avez honte. Moi, mon carton, c'est un carton vert à l'endroit de la population du Septentrion et de tous les FDS, ça il faut le dire, qui se battent en ce moment parce que si vous n'êtes pas proche, on dit souvent, c'est celui qui est proche de la douche qui sent l'odeur. Si vous étiez proche ou bien vous avez un parent proche pour vivre ou bien sentir ce qu'ils vivent en ce moment, en toute sincérité, vous aurez quelque chose à ressentir, des pincements au cœur. Donc franchement, soutien, justement soutien à cette lutte. Franchement.
Coucou Sylvestre Béni.
Oui, je reprends également par les faits tricolores. Hein, au niveau donc de la nouvelle voie Tokoe Kassamanaka ici, au niveau du bassin. Hein, les feux qui sont là-bas ne travaillent plus depuis. Hein. Et peut-être après l'inauguration, c'est fini. Vous voyez, donc il faudrait également qu'on repense à cela. Maintenant, mon carton, c'est sur un carton rouge. Je ne sais pas à qui l'adresser. Mais c'est sur ce projet-là de 950 forages qu'on doit installer donc, au nord du pays et qu'on a confié à deux sociétés. Je dis que c'est incroyable. Vous ne pouvez pas donner donc, à deux sociétés de construire 950 forages. Ils vont finir quand? Donc, c'est des choses que, véritablement, que le gouvernement puisse repenser cela. Je l'ai dit sur d'autres médias, je le dis encore. Revoyez ce contrat-là. Si c'est des contrats gré à gré, il faut revoir ça. Les populations du Nord ont souvent besoin, donc, surtout du Grand Nord, ont souvent besoin donc, de l'eau. La preuve, ils ont manifesté encore il y a quelques jours. Donc, confiez ça à plusieurs sociétés afin qu'on puisse vite finir. Donner 950 forages à deux sociétés de faire Mounioro.
Merci beaucoup. Les anciens élèves du lycée d'Atakpamé sont conviés à une assemblée générale constitutive le 6 mai prochain à l'occasion des 50 ans de ce collège. Je connais un ami, un confrère, Abbas de regard.
Oui.
Hein, Abbas Moukaïla.
Oui.
Hein, lui, je suis sûr qu'il a fréquenté le site d'Atakpamé.
Ah, oui.
Peut-être l'IATA, peut-être il va se libérer pour l'Assemblée générale constitutive de l'association des anciens élèves de ce lycée. Les anciens enseignants, s'ils sont en vie, ils sont aussi conviés à cette.
Vous, c'est quel lycée, rencontre. SAS?
Moi, c'est l'école primaire publique Haoutoué.
J'ai dit lycée.
J'ai Haoutoué, lycée de Thiévier.
Voilà, il faut nous organiser. Du Bénin. Il faut nous organiser pour qu'on puisse faire une assemblée générale.
D'accord. Rendez-vous demain, jeudi à 11h, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien.